If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec l'email. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 613. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets surtout, et vous savez que je suis là pour vous aider à les réaliser. Je m'appelle Bertrand Souli, je suis créateur de contenu. Il y a 10 ans tout pile, je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi et pour mes clients, des entrepreneurs, des créateurs. Je les accompagne dans leur stratégie de contenu, leur marketing, leur visibilité et comment développer leur marque personnelle et créer une tribu de super fans. Aujourd'hui dans cet épisode, c'est à nouveau un épisode Ask Bertrand, vous savez, c'est le format, vous avez des questions et j'essaie de répondre avec toutes mes connaissances et surtout ma vision à moi et du mieux que je peux. Et vous savez que depuis la semaine dernière, je vous propose ça en mode discussion. Alors d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse, je vous invite vous aussi à venir sur le podcast, vous posez vos questions, on parle d'un sujet, on se donne un petit rendez-vous comme ça, environ une demi-heure, et on discute autour d'un sujet, vous pouvez venir avec toutes les questions que vous avez, qu'on avance, hein, on pourrait dire que c'est une forme de mini-coaching, et en même temps, ça vous permet aussi de profiter hein, de mon audience pour faire connaître un petit peu ce que vous faites, expliquer un petit peu ce que vous faites. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de mail avec Christophe Train, qui est un faux-preneur, hein, qui est dans le domaine du marketing vidéo, il fait de la formation, du coaching, en fait, on a le même type d'activité, hein, il a même aussi d'ailleurs un podcast, et nous avons discuté de nos ressentis, de nos stratégies par rapport au mail, comment on voit le mail, comment il utilise, quelles sont les difficultés, quelles sont les questions, quelles sont aussi un petit peu, on a parlé par exemple de questions de rythme, on a parlé de différents outils, de la visibilité qu'on peut avoir, des messages un petit peu comparés par rapport aux réseaux sociaux, et comment est-ce que finalement le mail aide aussi la visibilité, notamment par rapport aux vidéos, parce que je le dis, hein, c'est un très bon outil qui peut générer des vues sur des vidéos, et donc qui peut amener aussi finalement la réussite sur YouTube, hein, parce que l'algorithme de YouTube, il aime bien quand vous générez par exemple de la visibilité directe sur vidéo, et si vous attirez des gens sur votre vidéo, YouTube il va le voir et il devrait en principe vous aider à mieux placer vos vidéos. Donc c'est pour ça que le mail est vraiment très intéressant, et avec Christophe on a parlé justement des avantages et de comment lui il l'utilise, comment moi je vois un petit peu les choses, et on a vraiment changé là-dessus. Je vous rappelle que si vous ne faites pas encore de mail et que vous voulez vous lancer, j'ai une formation sur le sujet qui s'appelle 7 jours pour lancer sa base mail avec la mise en place d'un autorépondeur, d'un lead magnet ou d'un aimant à client, comme j'appelle dans mon langage, qui vous montre exactement comment mettre tout ce dont on a parlé dans cet épisode, et puis aussi dans les épisodes précédents, comment vous pouvez mettre ça en place assez simplement avec quelques outils qui sont simples, vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Je vais vous donner même un exemple, hein. Je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais pas mis en place un lead magnet dans un domaine qui était notamment autour de Kilomètre 42. Lundi, j'ai commencé à travailler sur un lead magnet. Mardi, il était terminé. Et à partir de mercredi, je commençais à collecter des abonnés par rapport des auditeurs, hein, tout simplement, de Kilomètre 42 qui avaient entendu mon appel à l'action qui était placé à l'intérieur de Kilomètre 42 et donc qui ont commencé à télécharger mon lead magnet. Donc, c'est-à-dire qu'en quelques jours, vous pouvez avoir une stratégie de dire que vous avez de l'audience sur un blog, sur un podcast, sur de la vidéo, sur vos réseaux sociaux, et pouvez les transformer en contacts avec lesquels vous allez pouvoir échanger, parce qu'une fois que vous avez l'adresse mail, vous pouvez envoyer des messages, et ces messages-là, justement, échappent aux algorithmes, ils échappent à l'enfer, j'ai envie de dire, d'Internet, de la furie d'Internet et de ses algorithmes, puisque vous êtes dans un petit cocon, dans votre tribu, et c'est justement ce que nous recherchons. Donc, si cette formation vous intéresse, tout se trouve à l'adresse suivante, votrecoachweb.com/aimant, AIMANT. Et maintenant, il est temps de discuter avec Christophe. C'est parti. Bonjour Christophe.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Écoute, très très bien, je te remercie. Et toi-même ?
Ça va très bien. Écoute, moi, tant qu'il y a du beau temps et qu'on fait du podcast, tout me va bien. Alors, je vais te dire, en ce moment, aujourd'hui, je suis super heureux avec ça. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation pour venir participer à ce nouveau format que je teste en ce moment des questions, un nouveau format de questions. Ce que je te propose d'abord, c'est que avant de me poser des questions et qu'on discute de ces sujets-là, tu te présentes et tu me dis sur quoi tu bosses.
Alors, pour me présenter très simplement, moi, en fait, si tu veux, j'accompagne les entrepreneurs ou les entrepreneuses, parce que c'est un terme qui est juste et correct aussi. Donc c'est plutôt destiné aux femmes, donc qui sont entrepreneurs et qui veulent donc développer leur visibilité sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. C'est mon expertise justement, le marketing vidéo. Et comment augmenter sa visibilité sur le web pour se démarquer, et d'autant plus quand on est indépendant ou qu'on travaille seul. C'est vrai que c'est très très compliqué de trouver sa place et sortir du lot. Aujourd'hui plus qu'hier, bah oui, la vidéo, c'est un outil incontournable. En tous les cas, j'oserais dire qu'il fait partie des outils incontournables, parce qu'évidemment, on peut penser au podcast, mais c'est vrai que c'est intéressant la vidéo, parce que ça permet de se montrer. Et de pouvoir comme ça, parce que l'image permet de capter beaucoup plus l'attention et puis surtout de créer de la confiance auprès des internautes. Voilà. Donc moi, je les accompagne là-dessus. Voilà, je suis formé sur le sujet depuis des années. Je fais partie comme toi, Bertrand, de ces anciens du siècle dernier qui ont commencé avec le HTML. Le web, la vidéo, évidemment, ça fait depuis le siècle dernier aussi que j'en fais. Voilà, j'ai suivi l'évolution d'Internet, du web marketing, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, voilà, je mets toutes mes compétences, en fait, à disposition de toutes ces entrepreneuses, donc, qui veulent vraiment prendre leur place sur le web et puis surtout, vu le contexte actuellement, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir essayer d'anticiper et de pouvoir, voilà, travailler et puis sécuriser son activité.
Ouais, c'est un vrai sujet, c'est vrai. La vidéo, d'ailleurs, j'en parlerai très prochainement parce que sur la complémentarité entre vidéo et podcast, c'est un sujet qui est important, qui me travaille beaucoup. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de mail parce que, en fait, on va
Oui.
refaire un peu de mail parce que le mail questionne tellement de gens et je sais qu'il t'a questionné toi aussi ce mail qui te questionne encore.
Oui, moi ça me questionne beaucoup. Moi, le mail, tu vois, ça fait depuis quelques années que j'envoie des mails. Et c'est vrai que moi, les premiers temps, quand j'ai commencé à envoyer des emails, voilà, j'étais assez surpris de me rendre compte qu'il y avait un taux d'ouverture assez faible, alors que pourtant c'était une base mail que j'avais mise en place au départ à partir de gens que je connaissais. Et je comprenais pas. Je pensais que le problème venait de moi, que je savais pas trop manipuler l'outil ou la plateforme que j'exploitais à ce moment-là pour envoyer mes emails. Et en fait, non. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que le problème était ailleurs. Comme dirait l'autre, la vérité est ailleurs. C'est de Fox Mulder, je crois qu'il disait ça. Et en fait, le problème était surtout d'un point de vue technique au niveau des serveurs de messagerie, d'une part, et puis aussi, il y a un aspect aussi que je me suis rendu compte qui était très important aussi, parce qu'au-delà du fait, si la personne reçoit le mail correctement, si je puis dire. Qu'est-ce qui va inciter en fait l'internaute à ouvrir le mail et à le lire? Et là, j'ai commencé à apprendre, en tout cas sur le mode texte, que le titre ou l'objet des emails était super important, que le contenu même des emails était super important. Et tout ça se travaille, quoi. Mais bon, ceci étant dit, voilà, ça reste encore pour moi. Une vraie question, surtout que tout ça évolue, la technologie, l'appréhension des gens quand ils reçoivent des emails. Et puis parfois, voilà, il y a des gens qui sont noyés d'emails et qui se désabonnent pas forcément, mais qui mettent directement à la corbeille les emails qu'ils reçoivent. Donc tout ça fait beaucoup de choses à gérer, quoi.
Oui, et puis en plus, je veux dire, c'est qu'on va être un peu plus dans le brouillard avec ce qui va se passer du côté de chez Apple, avec le fait qu'ils vont plus montrer les taux d'ouverture. En fait, ils vont plus, ils vont, ils vont squeezer la partie ouverture. Donc, on aura un peu de brouillard encore de chez Apple Mail. C'est vrai que on en discutait juste avant de commencer à enregistrer. Les histoires des taux d'ouverture, c'est quelque chose qui surprend toujours les gens. Moi-même, hein, je le dis, j'ai un taux d'ouverture qui est autour de entre 30 et 40% de mes mails. J'en discutais il y a pas très longtemps avec un coach et je lui disais ça. Il me dit, écoute, il me dit, c'est un très bon chiffre. Je dis oui, je suis d'accord que c'est un très bon chiffre. On est d'accord parce que c'est vrai, les gens s'attendent à avoir des très gros taux d'ouverture de mail. On a l'impression que du moment qu'on envoie le message, tout le monde va l'ouvrir. Mais en fait, moi j'ai envie de dire, il suffit de regarder sa boîte mail. Moi, dans ma boîte mail, j'ai des milliers de messages non lus. Hein. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas envoyer de mail, parce que, comme tu le dis quand même, c'est que s'il y a 30 ou 40% des gens qui ouvrent le mail, je me demande si... Est-ce que tu as déjà comparé avec ce qui se passait sur les réseaux sociaux? Par exemple, sur si tu as un compte Instagram, le ratio entre tes abonnés, le nombre de personnes qui voient vraiment une photo ou une vidéo, par exemple, que tu publies.
Tu vois, là, tu poses une vraie bonne question, parce que je me suis amusé effectivement à faire ce comparatif, et c'est pour ça que je continue à envoyer des emails, parce que l'email a beaucoup plus d'impact qu'une publication sur Instagram. Je sais pas, sur mon compte, je dois avoir 800 ou 900 abonnés, et en moyenne, les gens qui likent, en tous les cas, les publications que je mets sur Instagram, c'est 20-25 likes maximum, quoi, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est très très faible, hein, en termes de ratio, contrairement à l'email, où là effectivement j'ai 30-35% de taux d'ouverture, donc c'est beaucoup plus important.
Et tu vois, moi hier par exemple, j'ai regardé une photo, j'ai une photo qui a pas trop mal marché, toi, hier soir, et elle a encore des vues sur Instagram, et je suis en train de regarder les statistiques, et j'ai quand je regarde qui c'est qui les regarde, en fait, il y a que, on va dire, sur mes 5000 abonnés, tu vois, j'ai 1000 personnes seulement qui la voient depuis leur profil, la photo.
Ouais.
Donc, ça veut dire que déjà, je suis à 20% sur l'ensemble. Ouais. Et donc, je suis moins que dans mes mails.
Ouais.
Et c'est là où le mail, en fait, on a l'impression que ces taux d'ouverture, ils sont finalement relativement faibles. On aimerait avoir des taux d'ouverture plus élevés. Et il faut dire aussi, c'est que plus les bases mail augmentent et plus les taux d'ouverture faiblissent. Ça fait partie aussi des réalités. Mais sur les réseaux sociaux, et même sur les vidéos, moi par exemple, l'autre jour, j'ai regardé sur YouTube, j'ai une vidéo qui fait 80 vues, alors que j'ai 2000 abonnés. Je me dis, mais où sont passées les 1920 personnes à côté, hein, qui auraient pu la voir, etc. Et ce qui montre aussi que les abonnés que l'on a sur les réseaux sociaux, etc., ils ne nous appartiennent pas, de toute façon, ils ne nous appartiennent pas vraiment, mais on n'a pas vraiment moyen de être vraiment en contact avec eux. Alors que sur le mail, finalement, tu rentres en contact avec eux quand tu veux.
Ça, c'est très juste. Et effectivement, moi, je me rappelle d'un épisode de podcast que tu avais publié justement en parlant de ça. Et ça m'avait profondément marqué justement sur l'idée que l'email, c'est vraiment ton actif, ça t'appartient, c'est à toi, c'est à partir de cette matière-là que tu vas pouvoir vraiment générer du revenu, contrairement aux réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et autres, où là, tu es juste locataire, tu n'as même pas l'adresse email des personnes, de tes abonnés, hein, sauf si, évidemment, tu mets un lien vers un tunnel de vente, etc. Mais, basiquement, tu n'as pas leurs coordonnées, donc ça ne t'appartient pas, quoi. Donc, oui, c'est important de communiquer sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ouais, moi, je dirais que l'email, pour le coup, a toute sa place en termes de, sur le principe de vouloir capitaliser justement sa stratégie marketing. Et contrairement à ce qu'on pourrait supposer sur le fait qu'on ait, entre guillemets, un taux d'ouverture moyen, voire bas, faut continuer. Faut continuer malgré tout.
Mais tu sais, moi, je me suis battu à une époque, et je vais te dire, ça date il y a très longtemps déjà, je faisais des formations sur Facebook. Et dans mes formations sur Facebook, à l'époque, je disais aux gens, faites des jeux concours, faites des formulaires, faites ce que vous voulez pour ramener les gens de votre page Facebook à vos mails. Et je vais te dire à quel point c'est vieux, c'est que c'est quelque chose qui a plus de 10 ans, parce que j'étais encore salarié à l'époque, et j'avais dit ça à mon chef, je dis, on va faire un concours, on avait 100 bouquins sur le bureau, 100 bouquins de victoires de l'ASM en championnat de France de rugby. Je dis, on a 100 bouquins, ou 200, on sait pas quoi en faire. Et on a 6000 abonnés sur notre page Facebook. Et si on essayait de les choper par mail pour les faire venir en leur donnant ce bouquin, en leur offrant ce bouquin, eh ben, on avait eu, mais c'est vrai, hein, des gens, on avait mis ce message-là. Le truc était très simple, hein, c'était un commentaire, répondre à une question, laisser votre adresse mail, cocher la case comme quoi vous voulez bien recevoir des mails. On a reçu, je pense, on a au moins converti 20 ou 30% des abonnés de la page en mail.
Ah oui, oui.
Et la différence, c'est que maintenant, quand ils repensent à la page Facebook, je suis sûr que la page Facebook, maintenant c'est la page Facebook n'existe plus, mais moi, ma page Facebook, quand je regarde mes 1000 ou 2000 abonnés, quand je mets un message, j'ai 20 personnes qui le voient.
Ouais.
C'est énorme, la différence. C'est de se dire que finalement, cette stratégie d'essayer d'aller récupérer des mails, etc., et on peut le dire tout ce qu'on veut, que ça soit TikTok, que ça soit Instagram, que ce soit même YouTube, Je pense qu'en marketing vidéo, tu as aussi une stratégie de dire débrouillez-vous pour récupérer du mail.
Ah oui, pareil, exactement. Et effectivement, partout où on publie, dans la mesure où c'est pertinent de le faire, évidemment, parce que faut pas non plus rentrer dans le concept du commercial aux dents longues qui est là juste pour vendre coûte que coûte. On est là aussi pour apporter de la valeur et du contenu. Mais de manière générale, quand même, essayer de mettre quelque part un lien dans sa publication sur les réseaux pour inciter les gens à aller sur son site web, à laisser son mail d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour un e-book, soit pour, je ne sais pas, différentes choses qu'on peut mettre en place comme ça, et ce qui va permettre comme ça de pouvoir enrichir sa base mail, parce que encore une fois, c'est pour moi, quoi qu'il en soit, c'est pour moi la valeur la plus importante qu'on peut avoir pour pouvoir proposer ses services sur Internet d'une manière générale.
Il y a les Américains disent que l'argent est dans le mail. C'est-à-dire que
c'est ça.
C'est là qu'on vend. Mais c'est vrai que c'est un moyen, c'est un vrai moyen hein, de répéter l'offre, etc., de faire venir les gens, de les amener aussi. On en parlait la semaine dernière avec l'invité précédent. On disait que même par rapport au marketing de YouTube, si t'as des centaines d'abonnés sur ta base mail et que d'un coup tu leur envoies un mail pour dire j'ai une vidéo, YouTube, il va adorer parce que tout d'un coup, tu génères un trafic sur la vidéo. Et donc, finalement, pour les algorithmes de YouTube, tu montres déjà qu'il y a des gens qui sont intéressés par ta vidéo.
Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, ça fait partie des choses qu'on peut envoyer par email, effectivement. Hein, donc, ça, c'est intéressant par rapport à YouTube. Et moi, c'est ce que j'aime rappeler, tu vois. Enfin, en termes de stratégie marketing, grosso modo, on va utiliser la loi de Pareto. 80% de l'information qu'on va envoyer par email, ça doit être pour apporter de la valeur, de l'information et pourquoi pas du fun aussi. Et puis, on va s'autoriser 20% du temps pour avoir des actions un peu plus commerciales, voilà, pour proposer un nouveau produit, une nouvelle formation en ligne, enfin, des choses comme ça, quoi.
Alors, est-ce que pour autant, tu as des trucs qui te chiffonnent dans le mail? Des choses que tu n'arrives pas à comprendre?
Bah, ce que j'ai encore un peu de mal, bon, j'ai été coaché par rapport à ça, mais alors, je sous-estime un petit peu volontairement, mais c'est surtout l'idée de se dire comment on peut arriver, alors on parle de storytelling, de copywriting, pour arriver à capter l'attention de la personne qui va l'inciter à ouvrir le mail, à le lire et éventuellement à passer à l'action suite au CTA qu'on a mis dans son mail, enfin à l'appel à l'action qu'on a mis dans son mail. Moi, c'est ça en fait qui me chiffonne vraiment encore aujourd'hui, tu vois.
Alors, c'est vrai que tu as parlé, déjà, tu as dit presque des gros mots pour beaucoup de gens, copywriting et storytelling. et j'ai dit à un copywriter que c'est un gros mot en plus, donc j'ai osé le dire, mais parce que copywriting est mis à toutes les sauces et ça devient l'enfer sur des réseaux comme LinkedIn ou dans les groupes Facebook ou les modèles de messages sont remis, etc. Mais c'est vrai qu'après, il y a des trucs qui marchent bien dans le copywriting et il faut pas non plus le négliger. Dans le storytelling aussi. Et moi, tu sais, je pense que... Alors, tu dois pouvoir le voir dans tes statistiques suivant l'outil que tu utilises. Mais en fait, on se rend compte quand même qu'il y a la force de l'habitude et du rendez-vous. Les gens, ils ouvrent quand même les mails de gens qu'ils connaissent, principalement, qu'ils ont confiance. Et ils savent que le mail, ils vont pas perdre du temps. Moi, je pense d'abord que la première chose qu'il faut mettre dans un mail, c'est déjà de faire en sorte qu'il ne fasse pas perdre de temps à la personne qui va l'ouvrir. Parce que c'est l'essentiel de ça. C'est si j'ouvre le mail, je vais avoir une information qui est intéressante ou qui peut être distrayante ou qui peut me donner quelque chose. Mais je dois avoir quelque chose là-dedans. C'est pour ça non plus que je ne crois pas trop aux mails qui sont purs, sauf si tu es une star où tu peux donner des news. Mais où t'as que de la news, dire voilà, j'ai fait ça et tout, même sur le fond d'une histoire, au bout d'un moment, sauf si ton histoire est très bien racontée. J'ai des auteurs américains qui font du mail où ils mettent chaque semaine un texte qui c'est pas une nouvelle, c'est trop court, mais tu vois, un long texte où ils écrivent, où ils racontent, ils donnent des trucs d'écriture, des astuces d'écriture au milieu, etc. Mmh. Bon, tu sais que le mail, t'as envie de l'ouvrir, quoi. Il y a un défaut chez eux, c'est que tu sais que le mail va être long à lire. Donc ça peut être un frein, mais bon, tu quand tu as vraiment envie de le lire, tu mets de côté. Je pense notamment aussi à des personnes, tu vas connaître Anne Henley sur l'écriture, par exemple, qui a une lettre le dimanche qui est extrêmement intéressante parce que dedans, elle donne un truc d'écriture, une astuce d'écriture et trois liens. On pourrait parler de gens comme Tim Ferriss qui met ses 5 liens de la semaine, etc. Bah, tu vois, moi, au bout d'un moment, je m'en suis lassé parce que les 5 liens de la semaine, la plupart du temps, il y en a un vers son podcast, il y en a un ou deux vers un bouquin, et puis au bout d'un moment, c'est pas si intéressant que ça, ou alors c'est des trucs un peu longs. Donc, je crois que les gens prennent l'habitude. Ça, c'est un des premiers aspects que tu dois leur donner l'habitude. Il y a ceux qui leur font au quotidien, qui tous les jours mettent du message, du message, du message, du message, et t'as l'habitude de tous les matins à 9h. Ça, c'est un premier truc. Mais je pense que c'est surtout l'habitude de dire je vais trouver un truc intéressant. Du moment que je vois le nom, que je vois Christophe apparaître dans ma boîte mail, je vais dire il y a un truc. Peut-être, alors c'est sûr que ça peut pas intéresser tout le monde. Ça, c'est un truc qui, c'est sûr. Mais que les gens se disent la dernière fois que je l'ai ouvert, il y avait quand même un truc qui m'intéressait dedans.
Mais c'est clair, tu vois, je vais te dire là-dessus, sur ce point-là en particulier, moi, je suis vraiment dans cette démarche de ne pas vouloir forcément intéresser tout le monde. Par contre, effectivement, j'ai toujours plaisir à entendre que quelqu'un me dise, tiens, j'ai discuté comme ça avec un entrepreneur, il me dit, ouais, c'était un mail où j'apportais des conseils, etc. Il me dit, bah, ton mail, j'ai trouvé tellement intéressant, je l'ai imprimé, je l'ai mis sur mon bureau parce que franchement, c'était top ce que tu as envoyé, etc. quoi. Et voilà, ça. Et puis le lendemain, j'ai pu envoyer un autre mail sur un sujet différent qui ne l'intéressait pas lui, tu vois. Mais c'est pas grave. Il y a au moins dans la liste d'emails que j'ai envoyé, il y a un mail entre autres qui lui l'a intéressé très particulièrement, à tel point qu'il l'a imprimé et accroché dans son bureau. Donc et moi c'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est de me dire voilà, si je peux apporter à différentes personnes et à différents moments des sujets et des choses qui peuvent les intéresser. Et puis tu sais, je vais te dire un truc aussi par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est déjà être régulier, pas envoyer un mail comme ça quand on le sent une fois par mois ou tous les 3 mois, ça marche pas. Donc vraiment mettre en place de la régularité et puis aussi entre guillemets mettre de la variété. L'exemple très simple, si par exemple chez toi tu te dis tiens midi et soir tous les jours de la semaine je vais manger des pâtes, à un moment donné ça va te lasser quand bien même tu adores les pâtes, tu vois. Je dis ça parce que je parle pour moi. Hein. J'adore les pâtes. Et je sais que ça va me gaver, que ça va me saouler à un moment donné, quoi. Donc, de temps en temps, de se dire, OK, j'adore les pâtes, mais aujourd'hui, là, ce midi, je vais me faire des légumes. Là, je vais faire, je sais pas, des patates aujourd'hui, puis ce soir, faire des poireaux, je sais pas quoi, enfin, différentes choses comme ça, tu vois, pour justement varier un petit peu le plaisir. Et même s'il y a des choses que tu aimes moins bien que les autres, mais au moins, en tous les cas, tu varies le plaisir et tu vas savourer encore d'autant plus les choses que tu adores vraiment, quoi. Et dans l'envoi des emails notamment, tu vois, c'est moi c'est ce que j'essaye de faire autant que possible, apporter cette variété d'informations, en sachant oui que tout ne va pas intéresser à tout le monde, mais je sais que ça va intéresser en tous les cas certaines personnes, et c'est juste ça qui me plaît et qui me motive justement encore à continuer à envoyer des emails par exemple.
Il y a un truc, un conseil que je donne souvent moi dans ces cas-là quand on est un peu dans le flou, c'est de faire un tableau. Alors soit les outils longs, soit on fait un tableau où on sort tous les mails au fur et à mesure et on met alors le taux d'ouverture quand on l'a, les taux de clic, est-ce qu'on a reçu des réponses, des choses comme ça. En fait, moi je me rends compte quand même qu'il y a le mot anglais serait des patterns, mais je suis en train de chercher le mot français, mais on va dire des récurrences, des choses comme ça sur des sujets.
Okay. Okay.
Et de dire, bah, tiens, quand même, je me rends compte que quand j'aborde tel sujet, il y a quand même plus de retours. Quand je le mets de telle manière, il y a quand même plus de retours. Quand je mets tel titre de mail, il y a quand même plus de retours. Moi, je me suis rendu compte, chez moi notamment, que plus ça ressemble à du marketing, et moins j'ai d'ouverture. Plus c'est, tu vois, truc. Parce que des fois, tu dis, ouais, je vais essayer les méthodes, les X titres de je sais pas quoi, etc. Et je me suis rendu compte que des fois, ça fait tellement gros nez au milieu de la figure que les gens, ils savent qu'ils vont pas être intéressés, tu vois, ou quoi que ce soit. Et puis des fois, je dis, tiens, j'ai un truc à vous raconter, c'est juste une petite anecdote. Et je me rends compte que derrière, j'ai des gros taux d'ouverture, mais aussi des taux de clic dessus. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même dans le mail, c'est que ce qui est important, c'est que il faut d'abord faire ouvrir le mail. Moi, je donne toujours l'exemple d'un magasin. Hein, c'est que avant que quelqu'un rentre dans le magasin, il faut d'abord qu'il voit la vitrine, et c'est la vitrine qui le fera rentrer dans le magasin. Si dans la vitrine je vois un joli skateboard en bois et que j'en ai envie depuis des mois, bah je vais aller voir. Mais si la vitrine y a rien, et c'est fou hein, parce que je te dis ça, je passais l'autre jour avec ma fille devant un magasin qui a une vitrine qui est d'une mocheté pas possible, tu rentres pas dans ce magasin, tu vois, si tu peux pas regarder, il y a des trucs, et à côté, le magasin à côté, il a une belle vitrine et tout, et tu dis ah bah tiens, là je voudrais bien voir ce qu'il y a dedans, je suis curieux. Et ben le mail c'est pareil, et ben ça c'est quoi, c'est l'enseigne, c'est le nom, qui tu es, et le titre c'est ta vitrine. À partir de là, si t'arrives à créer un peu de de curiosité ou de dire bon, ils ont l'habitude, ils savent qu'en général je vais leur faire des trucs intéressants, etc. Et que tu arrives à l'amener un peu à chaque fois. Alors, est-ce que tu peux remplir ta promesse à chaque fois? Ça, je pense pas. Parce que ça marche pas avec tout le monde. Mais hier, j'ai fait une petite recherche. J'ai cherché le mot j'adore dans ma boîte mail. Parce que c'est souvent les réponses que j'ai à mes mails. Le j'adore. Eh ben, j'ai regardé, j'ai plein de mails où j'ai des j'adore, donc c'est re, titre de mail, et j'ai j'adore, 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 j'adore. Eh ben, souvent, je me suis rendu compte que ce ne sont pas les mêmes personnes qui répondent et que chacune répond à des mails différents. Par exemple, il y en a un qui a tilté sur un mail qui était de la curation de liens. Il y en a un autre qui a tilté sur des conseils. Il y en a un autre qui a tilté sur une anecdote. Et une anecdote qui tilte sur un lien vers une méthode que je donne de productivité. Bon, bah, ça signifie tout simplement que à un moment donné, la variété dont tu parlais, il faut savoir la mettre aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de manger des pâtes tous les jours, même si moi aussi j'adore les pâtes.
Bah, toi en plus qui court, c'est un féculent qui est intéressant pour faire de la course à pied justement.
Ouais, alors si on rentre dans le sujet, je viens d'enregistrer plein d'épisodes de podcast et tous mes invités, ils ont démoli les pastapartis, les pâtes et compagnie. Donc ce qui veut dire que ceux qui vont écouter Kilomètre 42 et Sport Nutrition dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, ça va leur démolir toutes les convictions qu'ils ont sur les pâtes et sur l'alimentation, les pâtes, etc. Parce que même des gens qui font des trucs incroyables, ils mangent plus de pâtes en fait. Tu te rends compte que c'est l'aliment qui est en train d'être déplacé, tu sais. Il y a des tendances et des modes hein, comme ça, et qu'ils fonctionnent très bien. Certains en végétarien, certains avec du riz, tu vois, mais plein de trucs. Et certains qu'avec de l'eau, d'ailleurs même, alors de l'eau de mer, donc voilà. Donc pour te dire que, tu vois, là aussi, je pense qu'il y a aussi des tendances, des habitudes, etc. Et des choses qui varient, mais ça, je le dirai dans les... Ça sera bientôt dans le podcast, parce que vraiment, tous les invités, ils m'ont tous démoli les pattes. Donc le conseil, ouais, vraiment là-dessus, moi, je pense que pour analyser la variété, c'est d'avoir une espèce de tableau Excel, hein, où on met un peu les résultats, on regarde un petit peu ce qui se passe. Si on fait des ventes... j'en parlais la semaine dernière, c'est aussi de dire, bon bah, on peut mettre le chiffre d'affaires qui a été généré par le mail à la limite, ou le nombre de contacts, le nombre de personnes qui sont intéressées. Moi, je sais pas après si tu pratiques de la segmentation aussi à partir de tes mails, si tu essayes de ranger les gens un petit peu dans des petites cases.
Oui, je segmente beaucoup en fait mes emails. En termes de segmentation très basique, moi, c'est ce que je préconise, c'est de commencer par mettre un segment client, un segment prospect, ça c'est le truc de base. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un webinaire, donc j'ai créé un segment webinaire spécifique, donc pour les gens qui se sont inscrits au webinaire, donc ça me permet de les relancer différemment que évidemment avec un client ou un prospect. Et voilà, en fonction des actions que je vais mener ou des choses que je vais créer, comme la formation en ligne, voilà, les gens qui s'inscrivent à la formation en ligne, voilà, il y a un segment spécifique aussi pour ces gens-là. Et la segmentation, c'est super important d'un point de vue marketing parce que bah, ça rejoint un petit peu à l'exemple que tu viens d'évoquer. Il y a des gens qui vont adorer tel sujet plus qu'un autre. Bah, la segmentation, ça répond aussi un petit peu à ça, quoi. C'est-à-dire que tu vas envoyer une information, pour être très concret, quelqu'un qui est client. Ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, d'aller lui envoyer un mail pour lui proposer un nouveau produit. Tu vois, contrairement à un prospect froid, où là, c'est compliqué. Là, avec le prospect froid, tu veux envoyer un email, peut-être en mettant un petit peu plus d'anecdotes, par exemple. On va jouer un peu plus sur l'émotionnel pour l'inciter justement à passer à la phase, enfin, à l'étape suivante. Et c'est là où la segmentation devient extrêmement intéressante à utiliser. Alors, pareil, avec réflexion, pas faire les choses n'importe comment, mais moi, je l'utilise beaucoup, effectivement.
Moi, je donne une astuce. Il y a une segmentation que j'utilise beaucoup, en fait, c'est de mettre un lien dans un mail. Et même la dernière fois, c'était cliquer dessus, il se passera rien, mais vous montrez juste que vous êtes intéressé. Et des fois, j'ai même fait des semaines de mails où je disais aux gens, le lundi, si vous cliquez sur le lien ici, vous aurez tous les mails de la semaine. Sinon, vous les aurez pas et on se revoit lundi prochain. Et donc il y a des gens qui le voient le mardi, le mercredi. Donc j'ai un segment qui bouge en fait, ce qui est un segment automatique. Donc quelqu'un va rejoindre la liste de mails. Mais en fait c'est aussi un moyen de dire bah il y a des gens qui peut-être la thématique les intéresse pas, ils vont pas cliquer dessus. Je leur dis très clairement voilà vous cliquez dessus, vous rentrez dans un segment, vous êtes dans le segment. Alors j'ai un segment productivité, j'ai un segment podcast comme ça qui ont été créés par juste un truc en disant aux gens vous cliquez dessus. Et par l'automatisation, par les systèmes d'automatisation derrière, eh ben, je les ai rangés dans des cases. Je sais, comme tu disais, sur certains produits, par exemple une formation podcast, bon, ben, j'ai un créneau de gens qui sont plus intéressés par le podcast sur lequel je vais pouvoir envoyer des mails et peut-être moins les sensibiliser parce qu'ils sont déjà plus intéressés au podcast que d'autres gens qui ne sont pas intéressés par le podcast au départ et à qui il faudra vendre aussi peut-être le fait que le podcast peut les intéresser, même s'ils pensent que c'est pas si intéressant que ça, ou que c'est si compliqué que ça, ou je sais pas quoi, et à quel on va les sensibiliser. Donc, c'est vrai que la segmentation fait partie des choses qui sont intéressantes, et c'est tous les outils. Alors, je sais pas quel outil toi tu utilises pour envoyer tes mails.
Moi, j'utilise la plateforme System.io, en fait, très simplement. J'ai démarré avec ça il y a 2 ans, et c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Tu vois, j'étais en coaching avec une entrepreneuse et elle me posait la question, quelle est la plateforme à utiliser. Alors je dis, moi je peux te préconiser System.io parce que je le connais, mais après sens-toi libre aussi d'aller voir ce qui existe par ailleurs, parce que System.io, comme n'importe quelle plateforme ou outil, c'est il y a pas de solution miracle. Il va y avoir juste une solution adaptée à toi, donc ça peut être System.io, ça peut être Learnybox, ClickFunnels et j'en passe. Donc tester, regarder, et puis une fois que tu trouves l'outil qui correspond vraiment à tes besoins et qui répond à tes besoins tout au moins, bah prends ça, quoi. Il n'y a pas ce qu'il soit à se poser. Donc, moi, c'est vrai que System.io répondait à mes besoins, ça m'allait très bien et j'en suis content et voilà.
Et un truc qu'il faut dire aussi avec le mail, et ça, c'est un élément qui est important, c'est que une base mail, ça s'exporte. Or, ça se sauvegarde, déjà, d'une part. Déjà et ça s'exporte. Le jour où on veut changer de fournisseur, par exemple, moi je préconise MailerLite au départ parce que c'est gratuit, parce que c'est très puissant, etc. Mais le jour où quelqu'un il a envie de partir sur ActiveCampaign parce qu'il trouve qu'ActiveCampaign ou SendinBlue seront plus complets, il peut partir. C'est le gros avantage, c'est que autant on le disait, ma base YouTube d'abonnés à YouTube, je peux rien en faire parce que je sais même pas qui ils sont, alors que là je prends ma base mail, je l'exporte en CSV et puis je la réimporte ailleurs. Bien sûr, faudra refaire les automatisations, bien sûr, faudra refaire les messages de bienvenue, bien sûr, faudra faire tout ça. Mais en tout cas, le contact, je l'ai. Et donc ça, c'est quand même une sécurité qui est extrêmement importante, parce qu'on travaille pas dans le vide. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. On pourrait avoir plein de taux, alors avec des taux de ce qu'on appelle le churn. Combien de personnes s'abonnent et combien de personnes se désabonnent dans le mois. Alors, les outils, en général, le donnent... Sur MailerLite, c'est dès l'écran d'accueil. Hein. Ils disent, il y a tant de personnes qui sont abonnées, tant de personnes qui sont désabonnées. Tu dis, bon, allez, hop, il y en a un qui est positif et l'autre qui est... Mais c'est intéressant de le voir aussi. Tu vois, dans le tableau de bord, on peut mettre aussi les mails de combien on a généré de désabonnements avec un seul mail, voir s'il y en a vraiment certains qui ont irrité les gens, tu sais, ou s'ils ont un petit peu marre des trucs. Ça peut être aussi un élément. En tout cas, ça fait partie des outils où... on a une maîtrise quand même plus importante de ce qu'on fait, tout simplement parce que c'est vrai qu'on a les contacts en main. Et avoir le fait de pouvoir contacter les gens, de leur envoyer un message, de leur soumettre des choses, en sachant que si on passe le filtre spam, et on fait tout pour passer le filtre spam, on ne met pas des gros messages n'importe comment, bon bah une fois qu'il est dans la boîte, il est dans la boîte, quoi. Alors que sur les réseaux sociaux, une fois qu'il est parti, il est parti, mais il peut... stagner. Une anecdote, tiens, je vais donner parce que j'étais très surpris l'autre jour sur TikTok. J'ai une vidéo qui fait 32 000 vues et la vidéo suivante, elle en fait 300. Et ben, expliquer, c'est le même concept, etc. Expliquer pourquoi l'une fait 32 000 et l'autre 300, ça, c'est un grand mystère. Alors que sur les mails, je sais que quand j'envoie des mails, j'ai systématiquement 30 à 40% des gens qui vont l'ouvrir. Et c'est pas parce que 30 000 à 300, c'est pas du 10 ou c'est du x 100, quoi, hein, les 100. Hein.
Mais c'est, ouais, TikTok, moi, c'est une plateforme, pour moi, c'est un réseau social extrêmement mystérieux parce que ce que tu me dis, je l'ai déjà entendu par d'autres personnes et il n'y a pas d'explication cohérente et logique et surtout dans des proportions comme ça aussi importantes. C'est incompréhensible. Donc, moi, j'avoue que TikTok, c'est pas. Enfin, je suis sur TikTok, hein, mais je l'ai testé un petit peu comme ça pour voir. J'ai regardé ce qui se faisait. J'en ai discuté avec des gens qui l'utilisent aussi. Et bon, c'est un réseau. Il a le mérite d'exister. Moi, c'est pas là où je communique le plus. Et il y a juste deux choses sur lesquelles je voudrais revenir là que tu as évoqué à l'instant. Déjà, effectivement, le fait de pouvoir exporter ses adresses email. Donc ça c'est vachement bien. Et ça illustre tout à fait ce que j'évoquais tout à l'heure, que les emails, c'est vraiment un actif, dans le sens où bah, tu as ton argent dans une banque, mais ton argent, tu peux le mettre dans une autre banque. Donc là, les emails, c'est pareil, tu peux mettre ça ailleurs. Et puis, la deuxième chose aussi qui est importante aussi à noter, c'est l'analyse des statistiques. On n'en parle pas suffisamment et c'est vrai que c'est quand même vachement important de prendre le temps en temps de regarder les stats, notamment sur les emails, mais c'est valable aussi pour les réseaux sociaux, enfin pour tous les outils qu'on utilise. Regarder, faire un point, dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je veux dire, par exemple, même sur YouTube, hein, on peut regarder les statistiques des vidéos qui marchent bien, celles qui marchent moins bien, etc. Et c'est important en tant qu'entrepreneur de prendre le temps de temps en temps, voilà, de se poser, de se dire, OK, c'est qu'on en est, le tableau de bord, c'est quoi aujourd'hui? Et pour vraiment pivoter éventuellement dans un sens ou dans un autre pour développer son business, quoi, pour continuer à le développer. Donc voilà, c'était les deux points que je voulais relever qui étaient importants aussi selon moi.
Eh bien écoute, ça fait un bon rappel. Tiens, et je vais te dire, je vais te donner une stat. Je suis en train de regarder ma base mail. Il y a des personnes qui ont reçu plus de 300 mails de ma part depuis que j'ai ouvert ma base mail, avec des ouvertures, etc., qui sont variables, des taux de clics qui sont très variables suivant les personnes. Hein. Alors là, par contre, il y a des très gros écarts de comportement. Mais en fait, pour ceux qui se posent la question, qui disent « oui, ça doit gonfler les gens, etc. », Non, j'ai plein d'entre vous là qui écoutez le podcast. Vous êtes plein à avoir reçu 200, 300, 340 messages, etc. de ma part. Et à être encore inscrit. Hein. Je parle encore de gens qui sont inscrits, pas de désinscrits. Une très, très, très grosse partie de ma base mail de mon côté. A reçu largement plus de 200 messages. Hein. Donc, pour ceux qui s'inquiètent de la fidélité, de dire que les gens, ils reçoivent un mail et puis ils s'en vont, etc., oui, il y en a. Oui, certains, ils veulent juste récupérer le petit cadeau et puis ils s'en vont. Oui, certains mettent des adresses, des fois un petit peu bidon pour essayer de tricher, on fait du nettoyage, etc. Oui, certains, moi le premier, je mets des systèmes comme InnoReader avec une boîte mail maintenant qui collecte tout pour éviter que ce soit dans ma boîte principale, mais ce qui n'empêche quand même que les mails, on les ouvre, on les regarde, on regarde quand même ce qui se passe, et comme tu le disais, c'est un actif, c'est quelque chose où on arrive aussi à créer de la fidélité, on arrive à créer un lien qui est beaucoup plus important, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment important. Pour conclure dessus, je te propose, Christophe, que tu redonnes les liens pour te suivre, pour savoir où, si on a besoin de tes conseils, si on veut avoir ton aide, etc. Où est-ce qu'on te retrouve ?
Alors, on va faire très simple. J'ai un site web. Donc, allez sur mon site internet. Ça me fera du trafic. Et à partir de ce site-là, vous aurez accès aux différents liens pour accéder à mes différents réseaux sociaux parce que je suis présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter. Je crois que c'est tout, grosso modo. Donc, depuis christophetrain.fr, Christophe, C-H-R-I-S-T-O-P-H-E, train comme le train, donc prenez le train en marche, .fr. Et à partir de là, donc voilà, vous aurez accès à ça. Il y a, bien sûr, il y a un e-book si vous souhaitez le récupérer et de fait être abonné après à ma newsletter. Et puis, donc vous verrez, je publie des vidéos. J'ai aussi un podcast audio d'ailleurs. J'ai mis ça en place depuis 2 ans maintenant, je crois. Ouais, ça doit être à peu près ça. Je vais bientôt arriver au numéro 100. Je suis bien loin encore de ton record de nombre de podcasts publiés, Bertrand. Mais voilà, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est un format intéressant, le podcast audio, justement, parce que tu en as parlé dans différents épisodes d'ailleurs. Mais c'est vrai que on a une proximité avec l'audience qui est différente par rapport à la vidéo. Parce que bien souvent, les gens écoutent le podcast audio avec les écouteurs sur les oreilles. Et en termes de proximité, c'est top, quoi.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça, tu vois, moi, je ne fais pas de formation vidéo, mais je fais des formations podcast. Parce que... Non, mais c'est vrai. Mais j'ai fait beaucoup de vidéos hein, entre ma chaîne YouTube et plein d'endroits. Il y a plein d'endroits où je fais la vidéo. Hein. J'ai commencé par la vidéo avant de faire du podcast aussi. Et je dis, c'est la proximité entre... Le podcast audio, le podcast vidéo, comment on arrive à relier les deux, fait partie de mes grands questionnements. Et je pense, tu vois, que je ferai d'autres épisodes dans l'été sur ce sujet-là, ou peut-être des vidéos, ou peut-être les deux un petit peu, parce que c'est un sujet qui se creuse.
C'est pas toi qui disais justement de faire De faire des vidéos de tes podcasts audio, enfin, pendant que tu es en train de faire ton podcast audio, de te filmer en même temps. C'est toi qui en as parlé d'ailleurs, je crois.
Oui, mais je l'ai fait en fait. Et je me suis rendu compte que beaucoup n'étaient pas vraiment regardés.
D'accord.
Et que pour l'algorithme, en fait, il y avait mieux à faire. Alors, c'est pour ça que, alors, je vais pas faire un peu de teasing dessus, mais je vais mettre en place des stratégies pour trouver des moyens de filmer, mais d'exporter certains extraits et en fait de transformer certains extraits du podcast global en vidéo, mais qui soit plus formaté dans l'esprit YouTube et formaté réseaux sociaux aussi pour arriver à les pousser. Mais ça sera un autre sujet. En tout cas, tu vois, ça, tu me permets de faire un bascule vers d'autres sujets que j'aborderai pendant l'été et sur lequel je travaille beaucoup. Ça, je fais plein de tests, il y a plein de trucs que je fais et mon équipement me permet justement de le faire. En tout cas, Christophe, je te remercie d'être venu pour discuter de ce sujet-là.
Merci à toi, Bertrand, surtout de m'avoir accueilli dans ton podcast. C'était un vrai, vrai plaisir.
Et je te souhaite une belle continuation. Je le dis parce que je viens d'aller voir ton site. Quand on arrive sur ton site, il y a un pop-up qui apparaît là pour récupérer un e-book. Tiens, je te pose juste la question, on a quoi dans ton e-book si je te laisse mon adresse mail?
Alors là, tu vas recevoir le e-book marketing vidéo, en fait, qui va te donner en fait toutes les bases nécessaires pour mettre en place une stratégie marketing vidéo. Donc, j'aborde la partie matérielle, évidemment, mais aussi les différents outils et logiciels qui sont indispensables pour démarrer à produire des vidéos sur les réseaux.
Et ben voilà, et ben comme ça, si vous êtes intéressé par la vidéo, vous pouvez aller voir Christophe, vous avez tous les éléments, et puis ensuite vous verrez ce qu'il vous envoie comme mail et si vous restez accro ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience hein, de voir un petit peu aussi ce que font les autres, parce que beaucoup, quand on se pose des questions de savoir ce qu'on va faire par mail, d'aller voir un petit peu ce que font les gens à droite à gauche, c'est aussi un élément très intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup Christophe et je te souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous inspire pour votre création de contenu à vous. Si vous voulez aller plus loin sur le mail, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ma formation à l'adresse suivante, votrecoachweb.com/aimant, AIMANT. Et bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de venir participer, vous m'envoyez un petit message et on discute du sujet sur lequel vous avez envie de progresser. Belle journée, belle création et la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.